Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous continuons à construire l'Église en nous mettant à l'école de Jésus-Christ et en profitant des 7 lettres qu'il dicta à Saint Jean pour les 7 églises d'Asie mineure qui représentent en réalité non seulement l'Asie mineure, mais toutes les églises du monde et à toutes les époques. L'Apocalypse n'est pas, comme on pourrait le croire, un journal à sensations qui révèle des drames sensationnels à venir. L'Apocalypse est la conclusion de l'Écriture sainte qui nous parle du ciel et de l'Église, c'est-à-dire de l'Église militante et de l'Église triomphante. Vous vous rappelez que dans la première lettre à l'Église d'Éphèse, qui est la principale des églises d'Asie mineure, tout allait bien, sauf que la charité de l'évêque s'était refroidie, et cela suffit pour que Jésus-Christ le menace de le retirer de son poste, voire même de faire disparaître son Église. Le simple fait de s'être refroidi dans l'amour de Dieu suffit pour être menacé des pires châtiments. Dans la deuxième lettre, notre Seigneur encourage l'Église qui va subir la persécution. Et maintenant, je vais vous parler de la troisième et la quatrième lettre à l'Église de Pergame et à celle de Thyatire. Voici ce que dit celui qui porte l'épée à deux tranchants, c'est-à-dire qui va sonder les reins et les cœurs, et qui va distinguer les bons des mauvais. Je sais où tu habites, où est le trône de Satan. Tu as conservé mon nom, tu n'as pas renoncé à ma foi, même en ces jours où Antipas était l'évêque prédécesseur de celui auquel notre Seigneur s'adresse, même en ce jour où Antipas, mon témoin fidèle, a souffert la mort parmi vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as près de toi des hommes qui tiennent la doctrine de Balaam, qui apprenait à Balak à jeter des pierres de scandale devant les enfants d'Israël, à manger des viandes offertes aux idoles, et à commettre la fornication. Toi aussi, tu as des hommes qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes. Fais pareillement pénitence, sinon je viendrai bientôt à toi et je combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche. Et à l'église de Thyatire, je connais tes œuvres, ta foi, ta charité, tes aumônes, ta patience, et tes dernières œuvres plus abondantes que les premières. Voici une église qui est en progrès. Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu permets que Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs pour qu'ils commettent la fornication et qu'ils mangent des viandes immolées aux idoles. Je lui ai donné un temps pour faire pénitence, et elle ne veut pas se repentir de sa prostitution. Voici que je vais la jeter sur un lit de douleur, et ceux qui commettent l'adultère avec elle seront dans une grande affliction s'ils ne font pénitence de leurs œuvres. Je frapperai ces enfants de mort, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Voilà deux églises qui se comportent bien en apparence, qui font des bonnes œuvres, et notre Seigneur leur reproche essentiellement de ne pas avoir combattu le mal. Il ne suffit pas d'être bon soi-même, il faut combattre le mal. Et quel mal faut-il combattre? C'est le vice impur qui mène à l'apostasie de la foi. Déjà, dans une lettre précédente, notre Seigneur avait parlé des Nicolaïtes. Donc, sur 7 lettres, il en parle 3 fois. Et dans 2 de ces lettres, c'est le sujet principal de ses reproches. Balaam était un prophète de l'Ancien Testament qui avait été appelé par le roi Balak pour maudire les Hébreux qui, sorti d'Égypte et après les 40 ans dans le désert, entrait triomphant dans la terre promise. Balaam hésitait à maudire les Hébreux car il savait que Dieu était avec eux. Cependant, il céda au roi et, miracle, aucune parole de malédiction ne put sortir de sa bouche. Tout ce qu'il essayait de dire pour maudire se transformait en bénédiction et il a béni les Hébreux malgré lui. Alors pour se rattraper, pour faire quand même le mal, il conseilla à Balak, le roi, d'envoyer des femmes pour faire tomber les Hébreux dans l'impureté d'abord, mais s'attachant à ces femmes, ils prenaient également leur idolâtrie et ils apostasiaient de la foi. Les Nicolaïtes, c'était une secte qui avait trouvé ou qui prétendait avoir trouvé des bonnes raisons pour l'échange des femmes. Eh bien, mes bien chers frères, si nous voulons échapper au châtiment dont Dieu menace l'Église de Pergame et celle de Thyatire, il faut que nous-mêmes nous combattions les vices qui sont dénoncés par Jésus-Christ, le vice impur qui mène à l'idolâtrie. Nous sommes très facilement comme les évêques de ces trois villes, aveugles, aveugles plus ou moins volontaires, c'est-à-dire négligents par rapport à ces vices. J'avais pris conseil, il y a quelques années, auprès d'un procureur général. Procureur général, c'est quelqu'un qui est très haut placé dans la hiérarchie judiciaire et qui donc a beaucoup d'expérience, pour lui demander, parce que évidemment c'était une femme, elle avait eu connaissance de beaucoup de cas, et elle me disait que le principal problème des gens qui étaient tombés là-dedans, c'est qu'ils prétendaient justifier leur vice. Ils refusaient de voir la gravité, même lorsqu'ils avaient porté atteinte à des enfants. Ils cherchaient à se justifier et surtout à nier la gravité de leur crime. Elle me cita le cas d'un professeur qui avait commis des délits contre la chasteté avec des enfants. Il n'était donc heureusement pas allé aussi loin que d'autres et qui prétendait que ce n'était pas grave. Et ça, c'est la force d'une femme. Elle l'a gardé presque une heure dans son bureau. C'est là qu'on voit la force d'une bonne chrétienne. Elle l'a gardé presque une heure dans son bureau pour lui faire admettre le mal qu'il avait fait. Et alors, au bout d'une heure, il a fini par s'écrouler en larmes et par demander pardon. Et le jour du procès, elle proposa le huis clos, c'est-à-dire que cela se juge sans que personne n'en entende parler, pour préserver la réputation de ce professeur, puisqu'elle voyait que sa pénitence, vous voyez, était une garantie de ce qu'il allait se ressaisir. Et ce professeur a dit non, la ville sait le mal que j'ai fait, elle doit connaître la punition que je vais encourir. Eh bien, ce comportement est rare. On justifie beaucoup trop facilement, ou plutôt, on tient pour peu de choses beaucoup trop facilement le vice de l'impureté, notamment chez les adolescents. Cela concerne les parents et les prêtres. L'impureté chez les adolescents n'est pas une fatalité. Regardez les enfants, les jeunes enfants jusqu'à 8-9 ans, même jusqu'à 10-12 ans, hein, ils sont facilement pudiques, le contraire d'impudiques. Ils n'aiment pas se mettre tout nus, par exemple. Et quand ils commencent à tomber dans l'impureté, ils n'en sont pas fiers. Sauf quand ils ont été pervertis, et même les enfants pervertis, à moins que ce soit tout jeune. Ceci pour dire que ce n'est pas la suite logique de l'enfance pudique de devenir impudique et impure. Si cela se produit, c'est parce qu'il a manqué quelque chose dans l'éducation. On peut préserver les enfants par le chapelet en famille, ou même le rosaire, par les vies de saints, par la pratique correcte de la pénitence, en ne les laissant jamais seuls, méthode de Saint Jean Bosco, en les écartant des mauvaises compagnies, méthode de Saint Jean Bosco toujours, et de tous les éducateurs. On ne fait pas l'éducation d'un jeune dans ce domaine en lui parlant de la sexualité, on fait son éducation en lui parlant de sa mission. Ce sont surtout les garçons qui sont victimes de ce genre de vices à cet âge-là. Un jour, mon fils, tu seras père de famille ou prêtre ou religieux. Si tu dois être père de famille, tu devras transmettre la vie et le bon Dieu forme ton corps pour transmettre la vie. Eh bien, si tu joues avec ça, tu offenses gravement le bon Dieu. Et on peut à ce moment-là parler de la famille. Et on doit mettre en garde contre les vices de l'impureté. Si tu tombes dans ces péchés, les conséquences seront, enseignement de Saint Grégoire le Grand, pape et saint et docteur de l'Église, et de Saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église également, donc excusé du peu. Les filles de la luxure, ils appellent ça les filles, c'est-à-dire ce qui est engendré, l'aveuglement de l'esprit. C'est terrible ça d'être aveuglé, parce qu'on n'a plus rien pour se diriger. L'irréflexion, la précipitation, l'inconstance, l'amour de soi, qui entraîne la haine de Dieu, l'attachement à la vie présente, qui entraîne l'horreur ou le désespoir de la vie future. Mon fils, si tu ne fais pas attention aux recommandations que je te donne, tu commenceras par l'aveuglement, et quand on est aveuglé, on ne se rend plus compte des choses. Un aveugle des yeux qui a vu sait qu'il ne voit plus. Un aveugle de l'esprit finit par ne plus savoir qu'il ne voit plus. Tu tomberas dans l'amour de soi, et ça ils se rendent bien compte, c'est l'égoïste, qui entraînera la haine de Dieu. Et à cet âge-là, tomber dans la haine de Dieu leur fait peur. L'horreur et le désespoir de la vie future leur fait peur. Et ils n'ont pas envie de tomber là-dedans. J'étais une fois dans une école catholique de la tradition. Les élèves de terminale, pour les deux tiers, n'ont pas communié le dimanche à la messe. Donc je me renseigne auprès d'un de leurs condisciples, qui était un ami. Et je lui dis, mais pourquoi ne communie-t-il pas? Il me répond, enfin, monsieur l'abbé, ne faites pas le naïf, vous le savez très bien. C'était l'impureté, évidemment. Je dis, mais ils ne se confessent pas. Au contraire, monsieur l'abbé, ils se sont tous confessés mercredi dernier. Je dis, moi, quand même, ils ne tiennent pas 3 jours. Je dis, mais depuis combien de temps cela dure, cela? Il me dit, oh, ça dure depuis la classe de 3e. Alors là, les confesseurs de ces enfants méritent vraiment ce que notre Seigneur dit à l'évêque de Pergame et à l'évêque de Thyatire. Fais pénitence, sinon je viendrai te chercher. Il n'est pas possible que des confesseurs, prêtres de Jésus-Christ, n'aient pas les moyens de préserver des jeunes qui viennent humblement se soumettre au tribunal de la pénitence. S'ils ne sortent pas du vice, la faute première est au confesseur, hélas. Parce que le confesseur, lui aussi, est dans le même cas de ce que disait mon procureur général. On néglige, on ne veut pas voir la gravité de ses fautes et leurs conséquences. Les deuxièmes coupables, ce sont évidemment les parents, parce que ce genre de vice se voit à l'extérieur. Il se voit justement par ses filles, par l'égoïsme, l'amour de soi. Ce n'est pas encore la haine de Dieu, mais c'est le dégoût de la prière. Tous ces élèves de terminale, dans la chapelle, lorsque j'y étais ce dimanche-là, étaient tous au fond de la chapelle. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Il y a des signes qu'on appelle le mauvais esprit, l'attachement à la vie présente, au bien de la vie présente, le mépris pour la mère. Des parents qui voient cela devraient se sentir alertés. Quelle est la cause? Eh bien, la cause, c'est l'impureté. Lorsque les enfants sont chastes, on ne voit pas ce genre de comportement. Il faut choisir pour les enfants des bons confesseurs et non des confesseurs laxistes. Et il faut faire pénitence, comme le demande Notre-Dame de Fatima. Il faut faire pénitence pour la conversion des pécheurs, et les parents doivent faire pénitence en premier pour la conversion de leurs enfants. Il faut veiller à Internet, au téléphone portable. Combien de parents ferment la fenêtre à l'impureté en choisissant des écoles dites bonnes, mais ouvrent grand la porte par l'Internet. D'autant plus que Internet ne fait pas que les initier à la fornication, mais à tous les pires vices contre nature. Saint Jean Chrysostome le dénonçait déjà fortement dans une lettre que je viens de lire et qui est très intéressante. Je suis persuadé que sous prétexte de miséricorde, on a perdu la force de combattre le vice. La vraie miséricorde n'est pas d'accepter les choses. La vraie miséricorde, c'est de sortir le coupable du vice. Désormais, je poserai la question aux adultes, aux pères de famille, surtout au confessionnal, sur les précautions qu'ils prennent à ce sujet de la chasteté dans leur famille et d'Internet. Toutes les familles ont Internet. Quelles sont les précautions qui sont prises ? N'ayez aucune confiance dans les mots de passe, il est très facile de les contourner. Eh bien, si ces pénitents sont laxistes et prétendent s'en justifier, je serai, hélas, obligé de leur refuser l'absolution. La récompense du combat pour la chasteté, notre Seigneur promet dans ces deux lettres, tout d'abord la manne cachée, la Sainte Eucharistie. Lisez et relisez la vie de Saint Dominique Savio pour voir la joie d'un jeune qui aime Dieu et qui communie avec lui dans la Sainte Eucharistie. Je te donnerai une pierre blanche, étincelante, c'est-à-dire un corps sur lequel le mal n'aura aucune prise. C'est une promesse pour le ciel, mais qui s'accomplit dès ici-bas. C'est-à-dire un corps, puisqu'il s'agit de corps, hein, dans les passions charnelles, un corps qui ne sera plus soumis à ce genre de passion, et qui sera étincelant parce que la chasteté rayonne, elle brille, elle attire. Et, promesse de la lettre à l'évêque de Thyatire, je te donnerai la puissance sur les nations. La chasteté donne puissance sur les nations. Celui qui aura vaincu ce vice, il gouvernera avec une verge de fer, et elles seront brisées les nations comme un vase de potier. Comme je l'ai obtenu moi-même de mon père, je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est encore notre Seigneur. C'est la même récompense que la manne cachée, l'Eucharistie. Que faire pour reconquérir notre pauvre pays, la France, à Jésus-Christ ? Eh bien, nous avons là le moyen donné par notre Seigneur Jésus-Christ, un combat pour la chasteté, qui commence évidemment en famille. Ce combat pour la chasteté donne puissance sur les nations. S'il vous est difficile de comprendre pourquoi, faites confiance à la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous aurez fait confiance à la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, et que vous aurez mis en œuvre ce qu'il demande, alors vous constaterez pourquoi, effectivement, la chasteté est une pierre étincelante et pourquoi elle est comme une verge de fer qui domine les nations. Nous avons là un moyen de reconquête des nations à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut le prendre, sinon nous mériterons les mêmes menaces et finalement les mêmes punitions que celles dont parlent ces deux lettres. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Fatima, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.